Tout de suite, Jean Lebrun pour la marche de l'histoire consacrée au siège de Sarajevo.
Bonjour à vous, Claire Sarvajan. Et ce, après les deux verdicts du Tribunal pénal international pour la Yougoslavie à La Haye.
Qu'est-ce que l'histoire ? C'est un voyage dans le passé en enfilant la peau des autres pour se mettre à leur place.
Le témoin de ce vendredi, Sanja Sindrić et le siège de Sarajevo.
Les juges ont reconnu que le siège de Sarajevo avait comme objectif de terroriser la population civile, qu'avec des tireurs d'élite, avec les fameux snipers, des centaines d'enfants qui jouaient, qui se promenaient à tuer, en plus, toutes les femmes et les hommes tués par des bombardements, avec comme objectif de terroriser la population civile.
Pour sa participation au déclenchement et au siège de Sarajevo, 44 mois durant, Karadzic a été déclaré coupable de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité, et pour sa responsabilité dans le massacre de la population musulmane de Srebrenica, de génocide. Karadzic tirait ainsi à sa façon les conséquences du projet de Milosevic que le Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie n'a pas eu le temps de condamner car il est mort avant la fin de son procès. C'est Milosevic qui avait voulu constituer une Serbie plus grande que l'ancienne République fédérée, une grande Serbie, au risque de devoir modifier les frontières intérieures du pays et de devoir déplacer de force des Croates et des musulmans qui vivaient dans les mêmes villages, les mêmes immeubles. Un autre leader grand serbe, Seychelles, était jugé hier par le Tribunal international pour la Yougoslavie. À la surprise du procureur, les juges, aux deux tiers, l'ont acquitté. Lui déclarait pourtant qu'au nom de la Serbie éternelle, il fallait achever les Croates, même avec une cuillère rouillée. Mais à entendre le Tribunal pénal international, la Grande Serbie était plus un projet politique qu'une entreprise criminelle. Le Tribunal pénal international a eu à connaître de plus de 110 cas. Reste à clore le jugement du général Mladic, qui commandait les forces serbes, lesquelles pilonnait Sarajevo avec l'entrain que l'on sait, l'entrain de l'urbicide.
La marche de l'histoire. France Inter, Jean Lebrun.
Sanja Sindrić, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes une des assiégées de Sarajevo d'avril à novembre 92. Après, vous avez pu rejoindre la France, où vous avez travaillé pour France Culture, vous retrouvez cette maison, et pour Antenne 2. Vous vous souvenez, pendant le siège, vous disiez aux gens d'Antenne 2, un off et du travail.
Ouais, je disais, je voulais pas être payé à Sarajevo, donc j'ai dit, de toute manière, je vais venir plutôt plus tard à Paris, et j'aurai besoin du travail.
Un off pour ma fille, du travail pour moi. Vous représentiez, quand vous arriviez dans nos bureaux, la femme de Sarajevo telle que nous l'imaginions ici.
Je sais pas, c'est votre imagination. C'est drôle parce que de l'autre côté, à Sarajevo ou en Yougoslavie, à l'époque, on me voyait comme une Parisienne.
C'est-à-dire l'élégance, voire la coquetterie.
Oui, peut-être.
Le fume-cigarette, bien
oui,
sûr.
Oui.
Vous aviez fait vos débuts dans le journalisme à une grande occasion en 1984, mais déjà des ombres planaient sur la République fédérale de Yougoslavie. C'est à peu près la même année que, étudiante à Sciences Po à Sarajevo, vous voyez un professeur qui s'appelle Seychelles,
ouais.
et qui convoque ses étudiants pour des entretiens très curieux.
Oui, il n'était pas mon professeur, mais j'avais des collègues qui se trouvaient dans son cabinet, certains enseignants aussi, où il convoquait comme ça pour bavarder. Et puis, il s'amusait à dessiner sur une serviette, un papier, les frontières de la Yougoslavie, et en tirant les traits en disant, voilà, on va faire comme ça et comme ci. Donc c'était en fait les projets de dissolution de la Yougoslavie et la création de la Grande Serbie.
Mais on ne voyait pas ceci comme un projet dominant encore à l'époque. En Bosnie-Herzégovine, capitale Sarajevo, la joie a éclaté quand est arrivée l'annonce des Jeux Olympiques.
J'avoue qu'au début, nous n'avons pas cru qu'on allait obtenir l'organisation des JO. On n'avait aucune expérience dans le domaine. Sarajevo n'avait jamais accueilli une aussi grande manifestation auparavant, et je pense qu'il n'y en aura pas d'autre dans les 100 ans à venir.
Musique populaire, danse et mouvements gymniques devant 50 000 spectateurs pour l'inauguration cet après-midi des Jeux Olympiques d'hiver au stade Kosevo de Sarajevo. Ce ne sont pas moins de 1600 compétiteurs représentant 49 pays qui sont aujourd'hui réunis à Sarajevo. Le président yougoslave Mika Spiljak prononce la phrase rituelle.
Proglašavam da su 14. zimske olimpijske igre u Sarajevu otvorene.
Il ne manque plus maintenant que la flamme olympique pour clore la cérémonie et c'est la patineuse yougoslave Sandra Dubravčić qui aura le privilège de porter le flambeau symbolique au sommet de ses 93 marches et allumer ainsi la flamme qui brûlera sans interruption jusqu'au dimanche 19 février.
C'est l'époque pour les Jeux où on construit le Lidein qu'on retrouvera peut-être dans votre récit du siège de Sarajevo. Souvenir des Jeux, Sanja Sandrić?
Ah oui, oui, toujours. Bah, il faut mieux avoir des belles souvenirs, des beaux souvenirs que... la grisaille ou les souvenirs douloureux, hein. Mais les Jeux Olympiques, oui, oui, c'est des très très bons souvenirs pour moi. C'est le début de, disons, de ma carrière professionnelle. C'est à cette époque-là où je commence à travailler vraiment avec la presse étrangère. Ce qui finalement va faire mon chemin et jusqu'au Paris et puis la collaboration avec de la presse même ces dernières presque 25 ans ici à Paris.
En 1991, on parlait des anciens projets de Grande Serbie de Seychelles, la Yougoslavie fédérale se défait à vitesse grand V, la Slovénie va acquérir son indépendance, sans guerre réelle. Milosevic n'intervient pas vraiment,
oui,
le
non,
président
non.
serbe de Belgrade.
Combien
de morts?
Ils arrivent juste à abattre un hélicoptère à Ljubljana. Et je pense qu'ils ont eu cinq morts. Le conflit en Slovénie a duré, je pense, 2 semaines ou un truc comme ça.
La guerre en Croatie est autrement sérieuse.
C'était après un an et après, je me rappelle très bien qu'on disait même à la maison, si Slovénie c'était 1 semaine, 1 an ou même 1 mois, 1 an en Croatie, bah, si ça arrive en Bosnie, ça va durer 10 ans.
L'année 91, vous sentez ces dangers, mais votre soin premier, c'est de sauver votre petite fille Emma, née très prématurée. Et vous êtes à la clinique pendant des mois et des mois, jusqu'à l'automne 1991, comme dans une bulle, enfin parce qu'il
oui,
faut la sauver.
Complètement dans une bulle, parce qu'en fait Emma, elle est née le 25 mai. Ça correspond, c'est à quelques jours avant en fait le déclenchement de conflit en Slovénie. Ma fille est née 3 mois d'avance, un vrai phénomène. Donc je suis enfermée à l'hôpital avec elle pour, dans l'espoir et en essayant en fait de la mettre au monde une deuxième fois. En fait, les médecins étaient très pessimistes pendant toute cette période. Mais voilà, Emma, elle a survécu. Mais pour moi, c'était la première et principale bataille, d'une manière, première guerre pour moi, c'était ça.
À l'automne 91, vous pouvez quitter la clinique, vous rejoignez la maison de la famille de votre époux, qui appartient au groupe musulman, mais ce n'est pas déterminant dans votre choix à l'époque, groupe
oui,
musulman.
Oui, à l'époque, on ne savait même pas faire la différence encore entre les noms de famille. Vraiment, c'est hallucinant à quelle vitesse l'on peut apprendre, même quand il est né et élevé dans un milieu complètement multiculturel, multinational, comme on dit, à quelle vitesse, en fait, on peut apprendre des signes, en fait, de voir que mon voisin, mon ami, finalement, il n'a pas les mêmes origines que moi, etc. Voilà.
Le cessez-le-feu a été déclaré en Croatie et l'armée fédérale, qui est en fait une armée complètement contrôlée par les Serbes, s'est repliée sur la Bosnie-Herzégovine. On peut même se dire que ce n'est pas un repli, c'est une manière d'occupation. Vous avez entendu assez vite, pendant l'hiver 91, des rumeurs selon lesquelles, sur les collines environnant Sarajevo,
oui, les rumeurs,
se préparaient des choses.
Oui, les rumeurs, elles ont commencé même à l'époque quand j'étais à l'hôpital, parce qu'à la maternité, il y avait des femmes qui habitaient dans les villages, dans les montagnes, Et leur mari, quand il venait leur rendre visite, parce que c'était les jeunes mères comme moi, il racontait que l'armée est en train de creuser des routes travers les montagnes. On s'est dit, mais pourquoi ils font ça? Pourquoi? Très vite, 6 mois plus tard, on a compris, parce qu'en fait, c'était les routes qui permettaient l'encerclement de Sarajevo.
En mars, la Bosnie-Herzégovine déclare son indépendance après un référendum approuvé par 63% des votants, mais boycotté par une grande partie des Serbes. L'Union européenne reconnaît cette indépendance. Pendant que se déroule, nous sommes maintenant début avril, une grande manifestation appelant à la paix et à la coexistence.
Sarajevo offre ce soir le paysage d'une ville morte. Les rues sont pratiquement désertes. Les rares passants se dépêchent pour aller se mettre à l'abri. Des tireurs isolés ont en effet pris position dans les différents quartiers de la ville et les tirs sont fréquents. Partout, des vitrines brisées, des magasins pillés. Les patrouilles de police, serbes d'un côté, croates de l'autre, circulent dans les rues de la ville mais ne parviennent pas à ramener le calme. Au milieu, les automitrailleuses de l'armée fédérale tentent elles aussi de contenir les affrontements. En vain, l'armée qui a par ailleurs pris position autour de l'aéroport. Dans la vieille ville, le quartier musulman, les rues sont bloquées par des barricades. Le couvre-feu n'intervient qu'à 22h, mais les habitants de Sarajevo préfèrent avoir regagné leur domicile dès 18h, laissant ainsi les rues aux tireurs. Selon cet habitant, c'est aujourd'hui le chaos, l'anarchie à Sarajevo, où plus personne ne contrôle rien. C'est également le cas dans d'autres villages proches de la capitale de la Bosnie-Herzégovine, à Kupres par exemple, où les affrontements entre Serbes et Croates auraient déjà fait de nombreux morts. Sarajevo, Serge Martin, France Inter.
C'est un jour décisif parce qu'il commence par une manifestation de paix avec des drapeaux fédéraux et il se termine par les tirs des snipers et les premières victimes. Et la ville commence à être coupée. Vous n'avez pas participé, vous, à cette manifestation, Sanja Sinric?
Non, je n'ai pas participé à celle-là parce que justement, je m'occupais des mains. Et pas seulement à cause de ça, parce que... Je sais pas, je suis élevée d'une telle manière qu'il faut mieux travailler que manifester. Je ne suis jamais allée à aucun manif.
En avril 1992, vous quittez la maison de la famille de votre époux qui est située sur les collines de l'autre côté de la rivière. La ligne de front va être installée là, quasiment. Et vous habitez au 13e étage d'une tour... du côté du centre de Sarajevo, un peu exposé, le siège commençant tout de suite au mois d'avril, vous vous retrouvez la nuit dans des situations à la fois magnifiques et très difficiles.
Tout début, magnifique, oui, les gens, je ne sais pas ce que les gens ils vont comprendre, voir une ville de 13e étage qui est complètement en flamme. C'est ça se voit ou ça se voit jamais, c'est quelque chose extrêmement exceptionnel et c'est fascinant de voir les obus inflammables. C'est comme les oui, si on veut être romantique, on pourrait dire les étoiles qui tombent, sauf que ça crée un enfer. Mais peut-être c'est dans les soirs comme ça que j'ai compris cette fascination pour l'enfer dans la littérature, dans l'art, et pourquoi Néron il a dit qu'il faut brûler Rome parce que c'est beau.
Les débuts de guerre sont parfois fascinants. Ils ont peut-être fasciné votre mari qui va aller rejoindre le camp de sa famille. Votre frère se retrouve enrôlé, il s'appelle Boris, il va faire partie des défenseurs de la ville, de ceux qui empêchent l'infanterie des Serbes de descendre jusqu'au cœur de la cité. Mais quand vous entendez les récits qu'il vous fait, vous trouvez que cette défense est improvisée et un peu faible.
La première défense de la ville, elle était complètement... improvisé. En fait, les premiers hommes qui ont pris les armes, c'était en fait des voyous et des hommes qui passaient la plupart du temps dans la prison. Ce qui est tout à fait logique. C'est eux qui savent manipuler des armes, qui se procurent des armes et qui s'organisent dans les bandes. C'est comme des gangs. Et petit à petit, ça s'organise. Bon, ça a pris quand même pas mal du temps. À part de ces voyous qui sont les premiers à prendre les fusils, il y a aussi toute la population qui se dit, mais c'est pas possible, il faut arrêter ça. Et on comprend très très vite que si on fait pas quelque chose, on va se faire écraser comme des cafards. À la fois, il y a des gens qui cherchent eux-mêmes des armes et de s'organiser. Et puis après, ça devient une obligation pour tous les hommes. C'est pourquoi, en fait, le siège de Sarajevo était double. Parce que d'un côté, on a eu toutes les forces militaires serbes ou après même les croates. Et à l'intérieur de la ville, on a eu même la défense de Sarajevo qui a empêché les gens de partir.
Vous avez beaucoup de difficultés pour nourrir Emma, parce que votre fille va mieux, mais elle est menacée de sous-alimentation comme tous les bébés de Sarajevo. Comment vous faisiez ?
Oui, il y a le problème de la nourriture, il y a le problème d'électricité et de l'eau. Première chose qu'on perd, disons, de la vie civilisée, c'est le téléphone. C'était le jour de mon anniversaire, le 21 avril. Dernier coup de fil avec la famille de Novi Sad, donc qui se trouvait en Serbie. Après ça, c'est le coupure d'électricité. Donc, pas de frigo, pas de moyen de cuisiner. Le gaz était coupé également. Dernière chose, c'était l'eau. Donc déjà, dès mon arrivée dans l'appartement de ma grand-mère au 13e étage, on s'est trouvé sans électricité, sans l'eau. Donc, il a fallu descendre 13 étages, aller un peu plus loin, plus ou moins en découvert, dans les endroits où on avait improvisé des fontaines, où les gens de tout le quartier venaient pour remplir des seaux, toutes sortes de récipients. Et après, monter ça au 13e étage. J'avoue que j'étais très, très musclée à cette époque-là.
Et la nourriture ?
Nourriture, c'est le problème de la grande ville. On n'avait pas des jardins, là, et toute la nourriture venait, en fait, d'alentour de Sarajevo. Comme les routes étaient bloquées, on se trouvait sans rien. Les gens, ils ont... même les gens complètement inconnus arrivaient quelquefois à la porte pour me dire, voilà, on vous apporte un œuf ou une pomme parce que on sait que votre fille est extrêmement prématurée et qu'elle a besoin de manger. Et la nutritionniste qui s'occupait de ma fille, elle m'a dit, si tu arrives à lui donner un œuf par jour, elle survivra. Et c'était le cas.
Fin mai, il faut quitter l'appartement du 13e étage qui est franchement trop exposé, qui va d'ailleurs être victime d'une bombe peu de temps après. Et vous allez toujours avec Emma sous le bras, chez vos parents, sauf que votre père est très malade.
Oui, mon père, il était déjà malade. La maladie a commencé des années 80, il était sur hémodialyse. Donc, à part le fait de me battre pour Emma, il a fallu aussi faire pour papa, parce qu'il est même sous les bombardements, trois fois par semaine, je l'amenais en voiture jusqu'à l'hôpital. Quelquefois, c'était pour rien, parce que comme il n'y avait pas d'électricité, il n'arrivait pas à mettre les machines en marche. Et c'est en fait le manque de machines et de soins que mon père a décédé en janvier 93.
Un soir où il faisait
moins 25 dans la pièce.
Znalo je biti dana kad skoro cijeli dan to pada, pada, čujemo.
Depuis les collines, il pouvait tirer comme il voulait. Parfois des obus tombaient sans arrêt des journées entières. des explosions terribles. La ville tremblait. On lançait une bombe de temps en temps. C'était notre moyen de montrer que quelqu'un défendait la ville.
Je vivais près de la ligne de front. Je connaissais la plupart des combattants ou soldats. Aucun n'était un vrai combattant ou soldat. C'était simplement des gamins ou même des adultes qui se réunissaient dans des immeubles, distribuaient le peu d'armes qu'ils avaient et disaient « Allons défendre le front ».
Zajedno smo rasli, grad ja i ti, isto plavo nebo poklonilo nam stih. Iz potrebe vića sanjali smo sne, ko će brže rasti, ko će ljepši biti. Ti si bio velik, a rodio se ja, Sigmana uz osmijeh, slao si mi san. Dječak koji raste, zavolio teta, ostao je ovdje vezan za svoj grad. Bilo gdje da krenem, o tebi sanjam, putevi me svi tebi vole. Čekam s nekom čežnjom na svjetla tvoja, Sarajevo ljubavi moja. Pjesme svoje imaš i ja ih pjevam, želim da ti kažem šta sanjam. Radosti su moje,
la marche de l'histoire. Jean Lebrun sur France Inter.
En compagnie de notre témoin de ce vendredi, Sanya Sindrich, qui ne s'est pas opposée, tout compte fait, au choix un peu attendu de cette chanson.
Oui, ben non, parce que c'est vraiment Sarajevo, mon amour. C'est une chanson des années 70.
Kemal Montano.
Kemal Montano, oui. Et puis, oui, ben, en l'entendant, justement, je me suis rappelé de nouveau des petites scènes comme ça de l'époque des Jeux Olympiques.
Mais maintenant, les temps ont changé. Votre décision en juin 92 est déjà prise. Vous partirez avec Emma. Et vous ne pouvez partir qu'au bout de plusieurs mois, bien que votre valise soit constamment prête.
Oui, on ne pouvait pas prendre juste la voiture et partir. Je cherchais d'une manière extrêmement têtue le moyen de partir. Je courais partout dans la ville en cherchant les organisations qui préparent les voyages. Alors c'était il y avait premier espoir, c'était de partir avec avec Kouchner et Mitterrand en juin. Là je pouvais pas. En fait j'avais pas un papier. Donc au moment quand le papier arrivait par le fax, l'avion décollait. Donc, je suis restée à Sarajevo. C'était la première fois où j'ai dit au revoir à tous mes voisins et ma famille.
Parce que vous avez fait trois fois vos adieux.
Oui. Après, c'était premier espoir de partir avec un convoi de Croix-Rouge. Donc, je prépare mes valises. J'ai dit au revoir à tout le monde. On arrive à la grande station de la ville et puis on me dit ah ben non on peut pas partir, toutes les routes sont bloquées, donc retour à la maison. Donc j'ai fait ça trois fois, tous les voisins ont commencé à se moquer de moi en disant oh ben oui celle-là elle va partir, oui mais quel jour. Finalement je suis partie avec le convoi de Croix-Rouge le 10 novembre 92.
La guerre a gagné la Bosnie-Herzégovine entière. Il faut franchir beaucoup d'obstacles, contourner beaucoup de checkpoints que les casques bleus eux-mêmes, que vous appelez les...
Les schtoumpfs.
Redoutent.
De Bardane.
De Bardane.
Vous parlez français?
Non.
English?
Yes.
Ok. We came for people.
Yes.
People, you know?
Yes.
People? Ok.
Yes.
People between lines.
Yes, yes.
Yes? Ok. Where are they?
Yes, yes, yes.
Okay, d'accord. You understand nothing, je parie.
Yes.
I'm here for people between lines. People.
Что каже?
Мне он пойма, самому вичи, yes, yes.
Рико говори тут странные языки. Wait. Where are the men? Here. Where?
Ah. Two.
Here? Here, people. Soldiers? Okay. Any mine? Mine? Boom, boom. There.
No, man, no boom.
You sure?
No, mine.
Okay. We go now. Okay, we go. You don't shoot. Nobody shoot.
Yeah.
Okay. Thank you. Merci.
C'est un film, Sanya Sinrich, que vous connaissez bien, No Man's Land, de Danis Tanovich, dont vous avez assuré la traduction. Bravo.
Oui, j'ai traduit le scénario et puis après, c'était le sous-titrage du film.
Et si on revient aux difficultés de votre périple qui va durer 2 semaines, le premier jour, vous avez fait 15 kilomètres après le départ de Sarajevo.
Oui, toute la journée pour 15 kilomètres avec tous les barrages. Filtrage, c'était un convoi avec plusieurs dizaines de bus, et dont le bus où j'étais avec Emma. À un moment, les extrémistes serbes ont monté et puis ils ont fait descendre une femme, un jeune homme qui était mentalement malade et c'était très très visible, un autre homme très âgé. J'ai plus jamais revu ces 3 personnes.
Mais la Croix-Rouge était là pour vous protéger.
Oui, en théorie. Finalement, quand on est arrivé à cet endroit qui s'appelle Kiselia, qui est en fait le faubourg de Sarajevo, qui était en dehors du siège de la ville, Croix-Rouge, le soir, nous a dit « Bah maintenant, débrouillez-vous tout seul ». Le voyage était prévu jusqu'à Split, avec le Croix-Rouge, et finalement, je me suis trouvée... à Kiselyak, sans savoir ni comment, ni quand repartir.
Si je comprends bien, vous ne manifestez jamais et vous ne donnez pas aux collectes de la Croix-Rouge non plus.
Je donnais à l'époque à Croix-Rouge, mais maintenant c'est hors de question.
15 jours de périple, la neige menace, la boue est là, déjà.
Oui, la boue est là, à tel point que, parce que finalement, à Kiselyak, j'ai trouvé un ami qui a eu une voiture et qui m'a mené jusqu'à Split. Mais comme les bombardements étaient très très forts, on a voulu emprunter les routes à travers la montagne, elles étaient fraîchement creusées. Et donc on s'est trouvé dans la boue jusqu'au cou, et c'était un camion. Après, je vais comprendre que c'était les camions qui transportaient les armes, qui nous a sortis de la boue et on a pu continuer notre route.
Vous rejoignez finalement la Croatie. À Split, dans un camp de réfugiés, vous retrouvez une partie de votre famille. La Croatie indépendante dont les habitants ne sont pas nécessairement bienveillants pour les Sarajeviens. Il vous faut dissimuler votre accent, votre façon de parler le serbo-croate.
Parce que c'est les accents, comme ici en France, ça dépend est-ce qu'on est à Strasbourg ou à Marseille. Donc, je m'adapte. Et, je me force d'utiliser des mots, des argots locaux. Car déjà à Split, je me rends compte dans le magasin, si je demande le pain... en utilisant le mot qu'on prononce en Bosnie, je l'aurais pas. Et l'autre scène, par exemple, dans le taxi qui m'a mené à Zagreb jusqu'à l'ambassade où j'ai finalement obtenu le visa pour la France, le chauffeur de taxi, en entendant Emma tousser, m'a dit « Ah, votre fille, elle est malade, mais faites beaucoup attention parce que vous savez, avec tous ces réfugiés qu'on a ici maintenant, on va attraper n'importe quoi comme des maladies. »
Emma a fait de brillantes études en France.
Ouais.
Elle vit présentement en Allemagne.
Ouais.
Elle a la nationalité bosnienne et française.
Non, pas
seulement
bosnienne
française. Ça lui permet française. D'aller en Bosnie, tandis que vous êtes... réfugié politique et
toujours.
Vous n'avez pas demandé à retrouver la nationalité bosnienne, ce qui vous dispense, Sanja Sinrić, de retourner à Sarajevo, ce qui n'est peut-être pas votre envie la plus pressante. Merci de votre témoignage. L'émission a été préparée par Frédéric Martin et Linka Negulesco, avec à la technique Michael Bézikian et à la réalisation Jacques Sigal. Mathieu Vidard, au programme ce vendredi.
Oui, on va parler du Silexion, de botanique, de magnétisme terrestre et de l'homme de Flores dans la tête au carré, Jean.
Merci à vous.